Il est 7h48.
France Inter. Le 7-9.
Léa Salamé, votre invitée ce matin, est footballeur.
Bonjour à vous, Patrice Evra, ex-footballeur, retraité désormais. Merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour, merci à vous.
Vous êtes un joueur culte de football, star de Manchester United. Vous avez aussi joué à Nice, Monaco, Marseille, Turin avant de prendre votre retraite il y a 2 ans. Ça excite beaucoup Claude Askolovic et les connaisseurs de football de vous avoir, qui disent que vous êtes vraiment une légende. Vous avez aussi été un pilier de l'équipe de France, capitaine des Bleus, critiqué aussi au moment du fiasco de la Coupe du Monde de Nice Now en 2010. Vous parlez de tout cela dans votre livre qui sort cette semaine, I Love This Game, chez Hugo Sport Édition. Une autobiographie intime et sincère, où vous dévoilez vos faiblesses et aussi un traumatisme d'enfance que vous avez longtemps caché. D'où vous est venu le besoin de vous raconter ainsi? Vous aviez le sentiment que le public se faisait une image faussée de vous, qu'il vous connaissait mal?
Non, pas du tout. C'est juste quand tu fais une autobiographie, c'est comme une thérapie. Je ne l'ai pas fait pour aucune image. Pour moi, le public ne se fait pas mal. Quand je viens en France, je suis toujours bien reçu. Les médias, parfois, donnaient une mauvaise image de moi. Mais non, ce livre, je le fais vraiment pour les gens, pour les enfants, pour qu'ils comprennent que voilà, la vie, quand tu veux réussir, il y a de hauts et des bas. Et moi, ma vie, je suis transparent, très honnête. Il y a des choses, voilà, comme vous avez dit, un abus sexuel à l'âge de 13 ans. Naître noir dans ce monde, c'est un désavantage. Grandir dans une cité, c'est pas jouer les gangsters, c'est une question de survie. J'ai été victime, mais j'ai jamais trouvé ça comme excuse et j'aime la vie et je suis passionné. C'est pour ça que ce livre, j'espère qu'il va inspirer beaucoup de jeunes.
Vous êtes né il y a 40 ans au Sénégal avant d'arriver en France à l'âge de 1 an, né dans une famille peu banale. Asseyez-vous bien, vos parents ont eu à eux deux 24 enfants. Vous dites « mon arbre généalogique est un vrai labyrinthe ». Ma mère a eu 11 enfants, dont 8 avec mon père. Papa, lui, a eu 13 enfants de son côté. Au total, on était assez nombreux pour monter 2 équipes de foot, remplaçants compris.
Ah, exactement. Je pense que mon père, il regardait pas beaucoup la télé ou peut-être qu'il a perdu la télécommande. Mais non, voilà.
Il s'occupait à faire des enfants, en fait.
Voilà, je pense qu'il était très occupé. J'ai aussi maintenant 89 neveux et nièces. Et ils m'appellent tous Papa Noël. Donc voilà, c'est pas facile.
Alors le livre commence donc sur ce témoignage poignant. Vous avez 13 ans, vous dormez chez le principal de votre collège parce que vos parents habitent trop loin de votre nouvelle école où vous pouvez pratiquer le football. Et tous les soirs, cet homme va venir dans votre chambre pour vous toucher, pour vous agresser sexuellement et même le dernier soir pour vous violer. Vous réussissez à vous arracher à son emprise, mais vous ne parvenez pas à parler de cela à personne, ni à votre mère, ni à personne. J'avais trop honte, dites-vous.
Mais en fait, quand quelque chose se passe comme ça, c'est pour ça que c'est un message à toutes les personnes qui ont été dans ma situation. Premièrement, on a honte, et après, on a peur de ce que les gens vont penser de toi. Et je me rappelle à l'âge de 24 ans où je me suis senti comme un lâche. C'est parce que la police m'a appelé, puisque cette personne avait fait d'autres attouchements sexuels à d'autres enfants. Et il m'a dit, mais monsieur Evra, on a vu que vous avez vécu avec ce monsieur. Il a essayé, j'ai dit non. Et il m'a redemandé encore, j'ai dit non.
Vous avez menti, vous écrivez, j'étais célèbre, je jouais à Monaco, j'étais une star, je m'inquiétais des retombées, alors j'ai menti et j'ai répondu que non. Ils m'ont demandé si j'étais sûre et j'ai dit oui, ça fait des années que je vis avec ce mensonge, vous n'imaginez pas à quel point je le regrette.
Non, exactement, parce que tu vis avec ce poids et puis après j'ai rencontré la femme de ma vie, Margot. Et c'est elle qui a réussi à enlever toute cette toxique masculinité qu'on a. Les hommes, par exemple, pleurer, c'est un signe de faiblesse. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi.
Mais c'est en fait, votre père qui vous disait ça. Bah, pleurer, c'est faible.
Voilà. Mais en fait, non. En fait, c'est quand tu pleures, voilà, tu dois sortir tes émotions. Et moi, j'ai tout bloqué. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de choix que j'ai fait dans ma carrière, que les gens disaient il était agressif, oh là là, c'est un leader, etc. Mais c'est voilà, à cause de ça, j'ai fait confiance à plus personne dans ma vie. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, pourquoi je le sors? Et même ma mère, elle était effondrée, puisque ça s'est passé à l'âge de 13 ans, je lui dis ça à 40 ans. Elle est effondrée jusqu'à présent et elle m'a dit « Mais Patrice, tu devrais pas le mettre dans le livre ». Et j'ai dit « Non maman, parce que je le fais, c'est pas pour moi ». Mais c'est trop personnel, je dis « Je le fais pour d'autres enfants ». Et d'ailleurs, j'ai eu plein de retombées quand mon livre est sorti en Angleterre. Des femmes de 50 ans qui venaient, qui pleuraient, qui me disaient « Patrice, moi, j'ai été violée par mon propre frère et je ne l'ai jamais dit à mon mari ou à mon père ou à ma mère. Mais je le dis à vous parce que des gens ils se sentent connectés. Maintenant, je ne veux pas être aussi le sauveur, mais je veux juste que les gens ils comprennent que voilà, quand tu es dans cette situation, parle quand tu es prêt mentalement. Et ce n'est pas une question de courage. C'est pas une question de courage.
C'est une question de quoi?
C'est une question d'être prêt et de parler au bon moment. C'est pour ça que je n'ai pas envie que les gens me disent que je suis courageux, parce que ces personnes qui sont dans cette situation, c'est pas une question de courage, c'est une question juste... Il y a un moment dans la vie, voilà, et j'espère
vous,
que moi...
Vous, c'était à 40 ans.
Moi, c'était à 40 ans, c'est très tard, mais c'est parce que aussi j'ai rencontré la bonne personne qui a réussi à me dire, voilà, il faut tout sortir, il faut arrêter de garder...
Et ce livre, c'est aussi un message pour les enfants.
Ce livre, voilà, c'est pas... si ça tenait qu'à moi, voilà, faut parler. Et si ça tenait qu'à moi, ce livre, j'aurais même pas parlé de football. Même si ça fait partie de ma vie, c'est plus une philosophie de la vie.
Alors pourtant, vous parlez du football, et même pour ceux qui n'aiment pas le foot, eh ben c'est très intéressant votre parcours. D'abord, vous racontez la passion du foot qui va vous sauver de la petite délinquance et du deal quand vous grandissez aux Ulysses, dans votre banlieue. Vous dites d'ailleurs, les Ulysses sont devenus une véritable usine à fabriquer des footballeurs. Thierry Henry, Anthony Martial et d'autres, et vous donc. Vous racontez aussi votre début de carrière en Italie, en Sicile, au club de Marsala, puis à Milan, où vous faites l'expérience du racisme dans le foot. Vous êtes la cible d'insultes racistes, on vous appelle négro, on vous jette des bananes. Et puis un jour, à l'aéroport de Palerme, vous entendez un petit cri à son père, « Papa, papa, regarde le noir !» Il n'avait jamais vu un black de sa vie, il a voulu faire une photo avec moi.
Non, mais c'était incroyable, j'avais 17 ans, je sortais du quartier, première fois je voyageais, j'atterrais en Sicile, et puis je vois un monsieur avec son fils, et il me regarde comme ça, et il continue à me regarder. Je dis, mais attends, je ne peux pas être déjà connu, et il me demande, je le dis en rigolant, parce que moi-même, les vrais, les messages importants, il n'y a pas besoin d'être tout le temps sérieux. Bon, bref, il me demande de faire une photo, je dis, oh là là, je suis connu. Et puis après la photo, le petit commence à toucher mon bras, et puis il ne comprenait pas, il croyait que j'étais sale. Donc voilà, il n'avait jamais vu de noir. Donc quelquefois, c'est de l'ignorance. C'est pour ça que tout ce qui se passe dans le racisme, moi à l'âge de 17 ans, on me jetait des bananes. Quand j'avais le ballon, on faisait les cris de singe. Mais voilà, ça me donnait. J'étais encore plus fort sur le terrain.
Voilà, vous dites que je voulais jouer encore mieux à mesure qu'ils m'insultaient pour leur montrer.
Moi, c'est pour ça qu'il faut. Moi, j'aime pas trouver d'excuses dans ma vie. Après, on est des victimes. On n'a pas tous le même caractère que moi, mais moi, au contraire, ça me rendait encore plus fort.
Bon, et puis à votre expérience en équipe de France, vous avez choisi de jouer pour l'équipe de France, qui vous a valu des critiques au Sénégal. Hein. On vous a accusé de vous déculoter devant les Blancs.
Voilà, un vieux singe qui se déculotte devant les Blancs.
Et puis il y a Naïs Nahr, le fiasco de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Vous êtes le capitaine des Bleus, Raymond Domenech est l'entraîneur. Il s'entend mal avec plusieurs joueurs, et notamment Nicolas Anelka, qu'il va exclure. Vous faites grève, vous restez dans le bus, vous refusez d'aller vous entraîner. La ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, est dépêchée en urgence pour jouer les médiateurs. Vous avez des mots durs à l'endroit de Roselyne Bachelot dans le livre. Vous dites, nous étions dans notre bulle, on ne réalisait pas l'impact que ces images d'une équipe qui refuse de descendre du bus pour s'entraîner pourraient avoir.
Bah déjà, on va arrêter de dire refuser de descendre du bus, parce qu'on est descendu du bus, on a signé aux enfants, et après c'est Raymond Domenech qui a confisqué les clés du chauffeur. Donc ça, faut arrêter de dire qu'on n'a pas voulu descendre du bus parce qu'il savait après ce qu'on allait faire. Nous, on devait juste descendre, signer les autographes et repartir. Mais bref, ça c'est détaillé dans mon livre.
Ouais, vous racontez votre version de Naïs Nahr.
Oui, mais je défie quiconque de contredire tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas besoin de mentir. Ça, c'est la réalité. J'ai attendu peut-être 11 ans pour en parler, mais c'est vraiment la triste réalité.
Vous concluez votre récit de ce fiasco de 2010 avec cette phrase très intéressante. Vous dites, j'ai jamais été dupe de la façon dont une partie de l'opinion publique nous percevait, nous autres joueurs. Quand on gagnait, on était cette belle équipe black blanc beurre, symbole de l'unité nationale. Quand on perdait, on redevenait les immigrés qui foutent le bordel.
Mais bien sûr, mais ça, c'est pas qu'en France. Hein. On a vu au dernier Euro avec l'Angleterre. Ça, c'est dans le monde du football. Faut aussi pas pointer du doigt la France, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, on a vu quand Le Graët, il a dérapé en disant que le racisme n'existe
Noël
pas.
Le Graët.
Voilà, Noël Le Graët. En disant que le racisme n'existe pas quand un black marque, tout le monde s'élève. Ben voilà, je l'ai remis à sa place et il m'a même appelé. Il m'a dit, mais Pat, je croyais qu'on était amis. Mais j'ai dit aussi, président, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, quand le président de la République venait nous voir, on mettait plus les blancs autour de lui. C'est la réalité, parce qu'après, les gens, ils ont vérifié.
Vous avez envie de revenir en France. Vous habitez à l'étranger. Là, vous êtes entre Dubaï, l'Angleterre,
mais
etc.
J'aime la France.
Et vous voulez revenir, vous voulez vous engager auprès des jeunes en France.
J'aime la France. Je suis venu, j'ai porté le maillot de l'équipe de France avec amour. Et je vais revenir et faire des choses encore plus fortes. Et moi, j'aime bien quand les gens ne s'attendent pas, parce qu'ils sont, oh, il s'en fout, il est à Dubaï, etc.
Foutez pas des Français et de la France.
Mais c'est impossible. Mais moi, même quand je vois des Français, ils sont là à l'aéroport et quand on t'entend, oh, ils commencent à râler. Mais moi, ça me donne le sourire. La France me manque. On est chiant. Mais alors, on est fiers d'être
bon,
Français.
Bon, allez, deux questions pour terminer. La Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar, on peut gagner ou soi-disant, on a la meilleure équipe du monde et on n'y arrive pas.
Mais c'est bien ça le problème. Le problème, c'est qu'on a la meilleure équipe du monde maintenant. Donc je pense qu'on est trop confiant. Et on a vu ce qui s'est passé
à l'Euro.
Mais je pense que ça va nous servir de leçon. Mais bien sûr qu'on est favori. Mais c'est bien ça le problème. On va dire l'adversaire le plus difficile de la France, c'est la France.
Ouais. La question Mbappé, est-ce qu'il doit aller au Real ou rester au PSG?
Bah ça, j'aime bien Mbappé, mais je suis pas son père, je suis pas sa mère. Je suis pas là à donner des conseils. Moi, je fais mon livre, c'est pas pour donner des conseils, c'est juste Celui-là qui a envie de prendre exemple, il prend exemple et puis voilà.
Eh ben, il y a plein d'exemples dans ce livre, très étonnant, très surprenant. I love this game, votre autobiographie, Patrice Evra. Je conseille aussi votre compte Instagram où vous faites des vidéos hyper drôles, pleines d'autodérision, vous foutez de votre gueule. C'est très bien senti, vous êtes suivi par 9 millions de personnes. Merci, c'est chez Hugo Sport Édition. Merci et belle journée à vous.
Merci à vous, bonne journée à tout le monde.